happy. Good morning. Really happy.
Good morning.
He with you. He with you. He with you.
Happy.
Really happy.
Good morning, bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning, j'espère que vous allez bien, c'est Rem qui vous parle, nous sommes le jeudi 21 mars 2024, il y a John avec moi comme chaque matin, salut John.
Good morning, salut Rem.
Ça va bien?
Génial, génial, je suis très content d'être là avec toi ce matin, comme tous les matins, et pour cette belle journée de printemps, où le, voilà, on est toujours, ça va être mon motto là, pendant les 6 prochains mois. Je vais annoncer le cours du Bitcoin.
Alors
Bitcoin 67 000, Ethereum.
Ah ouais, ça a remonté.
3500. Ouais, ça reprend, voilà, ça reprend un peu des couleurs. Après, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, oui, c'est une journée verte.
Cool. Alors, Rem, allons-nous parler aujourd'hui, John?
On a Julien avec nous. Julien qui est le fondateur de Space Hunter. Salut Julien.
Salut tout le monde.
Salut Julien.
Ravi que tu sois avec nous ce matin. Donc Julien, en fait, on a échangé par message et ils sont sur des sujets que j'aime bien en fait. Ça veut dire que Space Hunter, ça se définit comme la première MMO chasse au trésor avec des gros prix à gagner. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça. Donc moi j'aime bien le côté, j'aime bien les chasses au trésor. C'est un sujet qui m'intéresse toujours. Donc quand il y a un projet qui émerge de ce type-là, qui a l'air un peu sérieux, bah, je suis toujours ravi de recevoir pour creuser un petit peu plus le sujet. Juste au niveau des actualités, Julien, vous lancez, je crois, vous lancez un token là, si je ne me trompe pas.
Exactement, tout à fait, ouais. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le petit jeu de mots sur le fait que tu aimes creuser ces sujets-là. Quand on parle de chasse au trésor, c'est toujours approprié.
C'est un talent, quoi, tu vois.
on lance un token en fait qui rentre dans la genèse du projet. Je ne sais pas si tu veux que j'en parle un peu plus maintenant ou tu veux qu'on.
On va revenir là-dessus, mais simplement en effet, oui. Avant tout, juste pour savoir déjà, on va commencer par toi. Qui es-tu? Comment t'en es arrivé là, quoi? C'est peut-être la genèse du projet d'ailleurs. Et c'est quoi ton background finalement?
Alors, moi, à la base, je suis ingénieur. J'ai fait une école d'ingé ici en France. Très vite après avoir obtenu mon diplôme, je me suis retrouvé à l'étranger, donc en VIE. Et là-bas, j'ai fondé ma première société. J'avais 25 ans. C'est une société assez traditionnelle de services. 2 ans après avoir fait tourner la boîte.
Du développement informatique, truc comme ça.
Ouais, voilà, ouais. Désolé, ça me paraît tellement. Tu vois, vu que je suis ingénieur tech, oui, c'est ça. C'est une boîte de. C'est une agence de développement comme il en existe beaucoup.
Ouais.
Et puis, 2-3 ans après avoir créé cette boîte, j'ai voulu monter un premier projet de start-up. Et je ne savais pas ce que c'était qu'une start-up. Ça veut dire qu'à l'époque, ce n'était pas aussi commun que ça l'est aujourd'hui, monter des start-up tech. Il n'y avait pas d'encadrement. Les incubateurs, ça n'existait pas. Donc, j'ai tout appris sur le tas. Ça m'a passionné. J'ai été mordu par le truc. Et depuis, je n'ai jamais arrêté de monter des projets. Alors, essentiellement dans le monde du B2B, Web 2. C'était dans la food tech, j'ai fait dans le e-commerce, j'ai fait pas mal de projets comme ça. Et comme je suis très curieux de nature, je regardais toujours ce qui se passait du côté de la blockchain. Moi, il faut savoir que le white paper Bitcoin, je l'ai découvert en 2010. À l'époque, le Bitcoin, il valait $15. Et très, très honnêtement, je ne savais pas qu'il allait valoir aujourd'hui 67 000. Donc,
tu l'as acheté quand ton premier Bitcoin, juste pour savoir?
Faut savoir que j'ai commencé à acheter des Bitcoins très très récemment, mais j'en minais à l'époque. Je n'achetais pas. Okay. Je minais, et d'ailleurs, on pouvait miner ça sur un ordinateur portable. En un mois, j'avais fait plus d'un Bitcoin en mining. Mais voilà, c'est pas des bitcoins que j'ai gardés. Hein. Donc, j'ai pas de yacht, je suis pas dans une villa au bord de la mer. Je me suis pas enrichi grâce à ça. En tout cas, pas enrichi financièrement.
Très bien.
Et voilà, donc j'avais découvert cette technologie qui m'avait aussi passionné, mais voilà, je me suis dit, bon, ça a l'air très très tôt, il y a très peu de monde qui l'utilise, c'était plutôt utilisé aux États-Unis. En Europe, ça ne l'était pas trop. Dans la région où j'étais, j'étais au Moyen-Orient, personne ne savait de quoi je parlais. Donc j'étais un petit peu, tu vois, l'intrus à chaque fois dans les groupes quand j'abordais les sujets. Et puis très vite, bah, je me suis un petit peu lassé de la chose et je me suis dit, OK, technologiquement, c'est super. Maintenant, il faut qu'il y ait de l'adoption et pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, je suis retourné à mes activités.
Après, je comprends et puis... aussi, enfin, c'est l'esprit aussi. Moi, j'étais un peu dans la même position que toi, d'ailleurs. Quand ouais. tu bosses dans le B2B, voilà, il y avait aussi une sorte de très forte dissonance entre la crypto-monnaie et la technologie. Ça veut dire que... quand tu vas avoir des clients ou ce genre de boîte, bon, finalement, tu avais un usage d'une technologie qui était potentiellement intéressant, alors que le seul use case concret, c'était le Bitcoin à ce moment-là.
Exactement, c'est tout à fait ça. Et donc, quand Ethereum est sorti, là, c'était une autre révélation pour moi. Ça veut dire que, pareil, je me suis tapé le white paper, j'ai trouvé ça super, je me suis dit, mais c'est super malin, ce système de contrat intelligent, de gas fee, ça va changer le monde. Mais encore une fois, voilà, il fallait attendre que l'adoption soit là, tout ça. Et j'arrivais à faire quand même des petits projets B2B. J'ai travaillé avec une boîte qui voulait implémenter un système de paiement Bitcoin au Moyen-Orient. Donc, j'avais développé des modules avec eux. Enfin, j'avais fait des petits trucs comme ça, mais c'était pas vraiment significatif, quoi. J'en vivais pas. Et là, sur les dernières années, bah, j'ai commencé à faire des choses plus sérieuses. Sur les trois dernières années, j'ai été sollicité pour développer des contrats intelligents, pour auditer, faire des audits de sécurité, pour améliorer, les gas fees sur certains contrats. Donc, ça commençait à être beaucoup plus sérieux que ce que j'avais pu avoir l'occasion de faire. Et je me suis dit, bon, bah, c'est le moment de faire quelque chose autour de la blockchain. Et à côté de ça, là, j'en viens à la genèse du projet de Space Hunters. À côté de ça, vous allez rigoler, mais j'avais un objet que je voulais vendre, donc je voulais me débarrasser. Mais l'objet, je pense que je n'allais pas en tirer un prix énorme. Je me suis dit, bah tiens, moi qui aime beaucoup les jeux.
C'est quoi cet objet, attends, parce que là, tu nous intrigues.
Ben, on va garder l'intrigue. non, je peux vous le dire. C'est une voiture.
D'accord.
Et en fait, moi, j'aime beaucoup les jeux. Quand j'étais jeune, il faut savoir qu'avant que je me lance dans l'entrepreneuriat, qui est quelque chose qui prend beaucoup de temps, je passais beaucoup de temps à jouer. Je passais mes nuits à jouer à des jeux de stratégie. Même après, quand j'avais l'occasion, en team building, j'organisais des petites chasses au trésor, des trucs en escape room. Enfin, tous ces jeux de réflexion, moi, c'est un truc que j'adore. Et je me suis dit, tiens, ça serait sympa si en fait, cette voiture, je la mettais en prix et que j'organisais un jeu. Et voilà, je vais renouer un peu avec mes passions de jeunesse. Et c'est comme ça, en fait, que tout a commencé. Et j'en discutais beaucoup avec un ami d'enfance qui est notaire. Donc, il est dans un domaine complètement différent, mais finalement plutôt utile parce que l'aspect légal autour de ce genre de jeu-là est quand même assez important. Et voilà qui je suis, voilà comment
attends, j'en suis venu. Ça veut dire que tu t'es dit, au lieu d'aller vendre ma bagnole sur la bon centrale coin. Ou le bon coin, je vais faire un concours, une chasse au trésor où tout le monde va payer 50 euros, 100 euros pour avoir peut-être la possibilité de gagner la voiture, c'est ça?
J'ai l'impression d'entendre ma femme me le dire, mais oui, c'est ça.
On décrète ça.
c'est exactement ça. En fait, oui, je me suis dit, c'est tellement...
Je pense que Rémi kiffe ça.
Ouais, j'adore.
C'est le genre
j'adore
d'idée.
J'adore ce genre d'histoire.
Dit,
ouais.
C'est le genre d'idée où il se dit, mais attends, mais pourquoi je le fais pas, ça?
C'était quoi comme voiture?
C'est une Tesla.
Ah ok, ah ouais, d'accord. Ah bah ouais, oui, donc t'as suscité un engouement. Oui,
c'était pas ta Renault 5, quoi, tu vois.
Non, et très, très honnêtement, c'est quelque chose que j'annonce qu'en off. Pour le moment, je n'ai pas fait de com officiel autour de ça, parce que je veux faire aussi un peu monter les choses. Il faut savoir que dans Space Hunters, il n'y aura pas qu'un seul lot à gagner. En fait, le concept, il a vachement mûri depuis le début hein, de ces échanges ouais, que j'ai pu avoir.
Tu es en train de me dire que tu es en train de créer une start-up pour vendre ta voiture. Là.
En fait, c'est comme ça que ça a démarré. Et maintenant, très honnêtement, la vente de ma voiture, je m'en fous un petit peu. C'est secondaire. Là, ce que je veux, c'est faire décoller cette fusée, quoi. Parce que c'est. Enfin, le concept, il m'a piqué finalement. Je me suis retrouvé à surkiffer le concept que je suis en train de construire et que je ne fais pas tout seul. Parce que j'en parle.
Bon, bah, non, mais c'est génial. Parce qu'en fait, avec ton histoire de point de départ, on comprend le concept. Le concept, ça va être dire de concurrencer le bon coin pour permettre aux gens de. Au lieu de vendre un objet sur le second marché, de créer des quêtes, des concours, des chasses au trésor pour pouvoir finalement, de leur côté, ça reste la finalité de vendre leur objet, mais de manière gamifiée, quoi.
Alors ça, c'était initialement la thèse principale qui en est devenue une thèse secondaire. C'est-à-dire que ce serait effectivement une possibilité d'utiliser la technologie que je vais développer en white label, éventuellement ou pas, tu vois, de se greffer à des missions qui seraient organisées dans le jeu et de proposer des objets qui seraient les gains que les joueurs remporteront.
Alors attends, c'est quoi la thèse principale du coup ?
Bah, la thèse principale maintenant, c'est devenu un jeu à part entière. Donc, si tu veux, dans le concept, ça très tôt, j'ai voulu concevoir Space Hunters comme une chasse au trésor qui pourrait reproduire le fonctionnement d'une chasse au trésor dans le monde réel. Mais qui se passerait en ligne. Et ça, c'était important pour moi dès le début, parce que quand on organise une chasse au trésor dans le monde réel, il y a toute une suite de process qu'on suit pour garantir que le déroulé de cette chasse au trésor, il n'est pas corrompu. Donc, on fait appel à des huissiers ou des notaires, on fait appel à ce genre de personnes pour venir apporter une sorte de gage de confiance à toute l'organisation. Et c'est là en fait où la blockchain prend tout son sens, parce que l'objectif étant de pouvoir dire voilà, ça se passe en ligne effectivement, les localisations etc. sont tout stockés sur des ordinateurs, donc c'est dématérialisé, mais c'est la blockchain qui va venir vous garantir qu'en début de partie tout est déjà défini et qu'il n'y a pas eu de modification, il n'y a pas eu de triche ni des organisateurs ni de quelqu'un d'autre. Ça c'est la première chose. Et du coup,
que le fait d'être on-chain, donc que toutes les règles soient transparentes, immuables et pas modifiables, garantit qu'il n'y a pas de triche, c'est ça ?
Exactement. À chaque partie, tu as la garantie qu'il n'y a pas de triche et tu pourras le vérifier à la fin de la partie.
D'accord.
Voilà, le fait d'avoir fait ça, en fait, le fait de le développer comme ça, ça permet quoi ? Ça permet d'ajouter des mécaniques de jeu à un concept de chasse au trésor qui est plus élaboré. Parce qu'une chasse au trésor, de base, c'est un jeu de sagacité, on doit résoudre des énigmes. Ça plaît à beaucoup de monde, mais c'est quelque chose qui, quand tu veux vraiment prendre de l'ampleur sur ta chasse au trésor, il faut qu'elle soit longue, il faut que ce soit un peu difficile, que tu aies le temps, tu vois, de ramener des joueurs. Et moi, j'ai voulu quelque chose qui soit un peu plus dans l'air du temps, un peu plus dans la modernité de ce qu'on peut voir comme typologie de joueurs, où c'est des joueurs qui ne veulent pas forcément toujours y passer des heures et puis s'engager sur des projets sur plusieurs semaines. Et c'est cette cible-là aussi qui m'intéresse. Donc, du coup, on peut greffer dans un jeu comme ça, une chasse au trésor de ce type-là, des mécaniques de jeux vidéo. Et c'est ce que je fais avec Space Hunters. En fait, on a une partie d'énigmes qui vont pouvoir aider les joueurs à se rapprocher du gros lot. Mais on peut aussi jouer en s'affranchissant de tout ça. Et là, on a un gameplay jeu vidéo où on va explorer, on va s'affronter avec les autres joueurs. Donc là, le côté massivement multijoueur prend tout son sens. On peut les attaquer, on peut les espionner, on peut lâcher des pièges sur la map de jeu. Et découvrir des cristaux qui ne cachent pas forcément le gros lot, mais qui cachent quand même quelque chose de valeur. On parle de choses qui valent plus que le ticket d'entrée du jeu. Donc voilà, ça c'est la thèse principale.
Donc alors, attends, t'es en train de dire, donc au lieu d'être donc là, tu me dis bon, une chasse au trésor c'est traditionnel, tu vas d'un point A à un point B, à chaque fois tu as une énigme qui te permet de savoir quelle est la prochaine étape. Enfin, c'est la mécanique un peu classique. Là, c'est un peu différent. C'est un jeu 3D, quoi, c'est ça ?
Alors, il va y avoir de la 3D, mais c'est ça. Tu peux l'imaginer comme ça. L'interface peut être un mix de 2D, 3D, mais c'est ça l'idée, exactement.
Donc, il y a une sorte de carte que j'explore. Enfin, quand je dis 3D, je ne sais pas, ou bon, une vue du dessus, ou je ne sais pas. Mais tu te balades dans un espace délimité dans lequel tu vas croiser d'autres gens. Tu peux te battre, tu peux les tuer, les gens ?
Non, tu ne pourras pas les tuer. En tout cas, pas dans la première version.
D'accord.
Tu peux les ralentir. Péter, quoi.
D'accord.
Exactement. Tu peux les ralentir, tu peux leur passer devant, tu peux leur shipper leur découverte, tu pourras faire ce genre de choses.
Mais c'est du jeu, enfin c'est un jeu en temps réel ou comment ça se passe ?
Alors oui, forcément, puisque les cristaux, comme dans une chasse au trésor, celui qui a trouvé le cristal, bah, il l'a ôté de la map pour tout le monde.
Ouais.
Il n'est plus là pour tout le monde. Donc oui, le temps réel est important. Il y a un aspect course dans le jeu. Maintenant, les contrôles dans la première version du jeu ne vont pas être des contrôles où tu te déplaces toi-même dans le monde 3D. Tu vas voir le pilote que tu opères. D'ailleurs, pour la petite histoire, si tu vas sur le site du jeu aujourd'hui, je ne sais pas si on peut le partager quelque part.
Ouais,
mais,
partage le lien, oui.
Voilà, bah, si tu vas dessus, tu vois sur la homepage, tu vois un vaisseau qui se balade autour de la Terre. Bon, bah ça, ce n'est pas une vidéo. Ça, c'est un premier travail qu'on a fait quand on développait notre proof of concept. C'est un univers en 3D qui est rendu directement sur le navigateur des gens, donc des ordinateurs. Et c'est extrait d'une des scènes du jeu. Donc, ça donne un peu un aperçu de ce que va être le jeu, comment ça va se passer. Et toi, quand tu vas jouer dans la première mission, en fait, tu vas commander ce pilote du vaisseau spatial pour lui demander où tu veux qu'il aille faire ses explorations autour de la Terre et si tu veux qu'il aille faire des extractions une fois que tu auras trouvé un cristal.
Mais donc, ça veut dire que toi, tu vois chacun à son propre pilote autour de la Terre, par exemple.
Ouais, tout à fait.
D'accord. Chacun a son propre pilote et donc chacun va lui dire, tiens, à tel moment, tu descends et t'explores en appuyant sur un bouton.
Pour l'exploration, il ne descend pas. Pour l'extraction, pareil, il envoie un drone pour l'extraction. Et c'est là où les pièges prennent leur sens. Parce que quand tu explores, tu vas pouvoir détecter un cristal. Quand tu l'extractes, il faut que tu envoies un drone pour l'extraire. Mais s'il y a un piège, bah, ton drone peut se faire intercepter. Et là tu es ralenti. Parce que tu dois en recréer un autre.
D'accord. Donc là, OK. Alors, je résume un peu toute la compréhension que j'ai de cette chasse au trésor.
Ouais.
Je m'inscris pour jouer une partie. Je paye un droit d'entrée pour la partie. Donc je paye un droit d'entrée. Une fois que je suis rentré dans cette partie, la partie va commencer dans 5 minutes, j'ai n'importe quoi. Et là, c'est go, on se retrouve avec 50 joueurs. Et le premier qui trouve le cristal a gagné, c'est ça ?
Alors, il y aura plusieurs cristaux, c'est ça, mais il y aura plusieurs cristaux.
D'accord, donc il y a 3 cristaux à gagner, ou je sais pas, enfin un truc, enfin j'ai...
Oui, les chiffres sont pas les bons, on est plutôt sur 10 000 joueurs, on est sur 200 cristaux, on est sur...
D'accord, 10 000 joueurs, 200 ouais. cristaux, très bien, non mais c'est, ok. Donc 10 000 joueurs, 200 cristaux, et donc c'est ça, donc c'est des grosses parties. Enfin, c'est pas, ouais. Par exemple, je sais pas, Fortnite où t'as 100 joueurs maximum. Donc là, c'est un truc massif, où tu as tout le monde sur la même carte, quoi, en quelque sorte.
Exactement.
D'accord, ok. Donc, 10 000 joueurs, 200 cristaux, et donc tu cherches. La partie peut durer longtemps, j'imagine.
Alors non, les parties, elles vont être limitées dans le temps aussi. Donc, la première partie, moi, j'envisage un truc de une semaine. 6,9 jours, pour ceux qui comprennent la référence. Mais oui, c'est pendant une semaine, effectivement, tu peux aller en quête de ces cristaux. Et tu vas pouvoir, pour maximiser tes chances de trouver et d'extraire des cristaux, tu vas pouvoir t'équiper de plusieurs pilotes si tu le souhaites. Tu peux aussi te mettre en équipe avec tes amis. Vous pouvez former une ligue ensemble. Et tu auras tout, tu auras cette trame d'énigmes en fait qui vont être disséminées pendant la partie et qui vont te rapprocher du gros lot. Ce que j'appelle le métacristal, c'est celui qui va cacher le gros lot. Il y aura à chaque fois dans chaque partie au minimum un gros lot à décrocher.
Et le gros lot, c'est la voiture.
Éventuellement.
Parce que bon, comment on la gagne, la Tesla?
Mais c'est ça, effectivement. Non, mais l'idée, c'est effectivement d'offrir des voitures, de pouvoir offrir des baraques, de pouvoir offrir des grosses sommes d'argent. En fait, moi, le concept de base, si tu veux, la mission un peu philosophique derrière, parce que au début, j'étais beaucoup challengé sur le fait que je voulais développer un jeu. Moi, je développais des solutions, tu sais, business to business, ça doit répondre à un problème, il doit y avoir une solution claire, etc., etc. Et on m'a beaucoup challengé sur ça. Et en fait, bah, un jeu vidéo, c'est un besoin essentiel. On a besoin de la dopamine qu'un jeu vidéo t'apporte quand tu joues. C'est physiologique, c'est psychologique, voilà, c'est là. Mais derrière, effectivement, c'est quand même mieux si tu peux ajouter à ça une composante où tu viens améliorer la vie des gens qui vont participer à ce jeu-là. Et j'avais vraiment envie que sur chaque partie, il y ait cette composante que j'appelle le life-changing prize. C'est, tu rentres dans le jeu, t'en ressors. Si t'as gagné le gros lot, ta vie, c'est plus la même.
J'ai compris. J'ai compris. Bon, bah, c'est très, très clair. Donc, on est sur un... on est à l'intersection d'un play to earn, malgré tout, mais d'un play to earn, c'est un play to earn big parce qu'il est sous forme d'un peu de jeu événementiel, quoi. C'est-à-dire qu'en effet, c'est donc en fait, c'est une sorte de grand jeu concours. C'est un grand jeu concours. En fait, au lieu de faire une sorte de tombola, où tu vas gagner la Tesla, bah, t'as un jeu, t'as une gamification basée sur la recherche. Qui vont faire que ton ticket, c'est pas juste un tirage au sort, mais c'est un peu d'habilité, d'attitude à réussir à récolter le gros prix, quoi, c'est ça ?
Tout à fait. Et c'est même pour aller plus loin, ce n'est pas du tout un tirage au sort, parce que alors cette analogie à la tombola, moi je l'aime bien, mais après les régulateurs l'aimeront moins. Donc
c'est ça. Tu vois ? J'imagine que techniquement t'as pas le droit de dire ça.
Non, mais c'est vrai qu'il y a une similitude à la différence près, et celle-là, elle est importante, elle est de taille, c'est qu'un ticket de tombola, tu l'achètes, une fois que tu l'as acheté, tu es dedans, tu as des chances de gagner. Un ticket Space Hunters, tu l'achètes, tu n'as toujours aucune chance de gagner, il faut que tu joues, il faut que tu sois bon dans ton jeu pour pouvoir gagner quelque chose.
Donc en fait, là, tu te considères comme un jeu, on va dire un skills game, quoi.
C'est complètement. On est complètement dans un jeu de skills. Bon. Et ouais, carrément. C'est une chasse au trésor dans laquelle on a pu se permettre, tu vois, d'intégrer. Parce que dans la vraie vie, tu peux pas dire, ouais, t'as le droit d'envoyer une droite à l'autre joueur pour le ralentir. Parce qu'effectivement, tu vas l'envoyer à l'hôpital. T'as pas le droit de faire ça. Alors que dans un jeu vidéo, bah, tu peux.
D'accord, j'ai compris. Et alors attends, donc là on tient la mécanique du jeu, on comprend la logique. Moi quand même, enfin quand tu parles de skills, après on va voir dans le jeu, mais enfin là la mécanique que tu décris, ou comment tu fais pour savoir qu'à tel endroit t'as des diamants ou qu'à tel endroit t'as le gros lot dans ton jeu?
Alors ça, c'est dans la découverte. Il y a, comme je l'avais dit, il y aura pendant la partie des énigmes à résoudre qui vont te rapprocher du gros cristal. Ça veut dire que ça va te donner des indications sur où est-ce qu'il n'est pas.
D'accord. D'accord. Voilà. Donc il y a quand même. Oui. Donc tu sais pas. T'appuies pas sur un bouton en fermant les yeux en espérant tomber dessus, quoi. Tu t'as des. À un moment donné, tu vas investiguer pour avoir les coordonnées du gros cristal, quoi.
Pour avoir effectivement plutôt des coordonnées invalides du gros cristal, en te disant, bon, c'est pas là-bas.
Arrête de chercher là-bas. Toi, ton but, c'est de trouver la coordonnée, et donc, en effet, tu vas le faire par élimination.
Tout à fait.
Par élimination, c'est ça.
Exactement. Et après, il y a aussi une autre mécanique, parce que tu parlais de quelqu'un qui pourrait se dire, bon, allez, moi, je vais y aller un tâtonnement, on va essayer à droite, on va essayer à gauche.
Tu connais le space, quoi. Moi, je vais t'envoyer des bots dans tous les sens, ils vont pillonner la planète, quoi.
Ouais, alors tu peux essayer, mais ils pourront pas, parce qu'il va y avoir justement des règles dans toute l'histoire du jeu. Ton vaisseau, il a besoin de se recharger entre deux explorations, donc tu vas devoir avoir un petit temps de latence. Mais effectivement, tu pourrais essayer de te dire, OK, j'automatise le truc et puis on y va, tac, tac, tac. Pourquoi pas? Une fois que tu as trouvé des cristaux, après, il y a une autre question qui va se poser à toi. C'est est-ce que tu veux l'extraire? Et si tu es tout seul, est-ce que c'est judicieux d'essayer de l'extraire? Est-ce que tu ne ferais pas mieux de poser un piège à côté et d'attendre que quelqu'un essaye de l'extraire? Comme ça, tu es alerté. Et puis toi, après, tu vas le chercher. Mais donc, ça voudrait dire que tu restes en stand-by. Donc, tu vois, il y a pas mal de questions qui vont se poser aux joueurs.
Il y a un peu de stratégie, quoi.
Tout à fait.
Donc, tu as de l'énigme, tu as de la stratégie. OK.
Tu as de la course aussi. Il faut quand même se dépêcher. Tu ne peux pas prendre ton temps. C'est le jour et puis les cristaux s'évaporent.
OK, c'est bien. OK. Alors, vas-y. Donc là, je vois à peu près les mécaniques. On en est où aujourd'hui? C'est quoi? Parce que du coup, on le disait au début. Alors, d'un côté, vous en êtes où dans le développement du jeu? De l'autre côté, il y a ce lancement de ce token. C'est quoi la roadmap aujourd'hui?
OK. Alors, la roadmap, en fait, elle a été retravaillée plusieurs fois, mais aujourd'hui, elle est la suivante. On veut commencer par fédérer une communauté, une petite communauté d'une centaine de personnes. Et ça passe par la collection qu'on a annoncée et qu'on va minter dans les prochaines semaines. Donc 111 jetons, c'est les jetons qu'on appelle les jetons OG, qui vont donner une place au council du jeu. Et ce council, en fait, va co-créer la première mission avec nous, avec l'équipe en place et tous les partenaires que j'ai pu fédérer autour du projet. Donc, une fois qu'on a ce council en place, on continue les développements et on va poser des questions que nous, on s'est déjà posées, mais auxquelles on n'a pas répondu de manière délibérée, pour se dire, on va laisser les réponses venir de manière organique du council. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, pour nous, c'est d'accélérer les développements, parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui finance tous les développements, donc je le finance au fur et à mesure. Ce qui fait que ça avance certes, mais ça avance assez lentement de mon point de vue. Donc je prépare une levée de fonds pour qu'on puisse ramener du capital et accélérer tous ces développements et finalement aussi solliciter ce council sur des choses qui vont être un peu plus intéressantes, j'ai envie de dire. La troisième étape, ça va être d'étendre cette communauté de base qui va aussi pouvoir voter sur des décisions du jeu, mais sur les prochaines missions. Parce que, comme tu l'as compris, on a une mission de 7 jours. L'objectif, c'est d'en organiser plusieurs. Et l'avantage que l'on a avec ce format, c'est qu'entre chaque mission, il peut y avoir des modifications. On n'est pas obligé de toujours être autour de la Terre. On peut avoir un nombre de participants qui varie. On peut avoir des lots qui sont aussi votés par la communauté. On peut en fait finalement avoir pas mal de choses paramétrables, ce qui rend en fait les parties beaucoup plus dynamiques, les unes entre les autres.
Quand est-ce que tu estimes que la première partie sera jouable?
Alors, moi, sur toutes les projections que j'ai faites, une fois qu'on clôture une première levée, il nous faut entre 6 et 8 mois pour finaliser la première partie.
Ok, d'accord. Très bien. Ok, donc là, oui. Donc, t'es clairement dans ce moment où t'as développé un peu le proof of concept, on va dire. Mm-hmm. T'as tout ça qui est sur papier. Et là, c'est vraiment la phase de levée. C'est-à-dire que même là, les 111, le council des 111, c'est quoi comment ça se passe? C'est un achat de token, c'est ça?
C'est un achat de token. Alors, c'est pas un mint financier, entre guillemets. Le prix, c'est avec plusieurs délibérations en interne avec d'autres personnes qui ont fait des choses un peu similaires. On en est venu à la conclusion qu'il fallait mieux le rendre payant. Maintenant, ça va rester relativement peu cher par rapport à ce qui se pratique dans le space. L'objectif étant de pouvoir intégrer...
C'est quoi peu cher?
On est sur 0,022 ETH, le jeton.
Ok, d'accord.
Donc, à l'époque, quand on avait défini le prix, ça tournait autour de 50 balles, quoi, le jeton.
D'accord, c'est pour marquer la volonté de rejoindre le conseil, quoi.
Voilà, c'est juste, on veut des gens un minimum sérieux, mais après, s'ils n'ont pas beaucoup de finances, mais qu'ils ont des qualités, des atouts par ailleurs, c'est des joueurs, tu vois, qui
mais donc, qui n'importe qui peut minter, ou il y a une sélection qui est faite de votre côté sur les 111?
Alors, ce qui va se passer, c'est que ça va se passer en deux temps. On a une première phase où il y a un mint garanti pour 44 jetons. Et ça, c'est effectivement, il y a une partie de sélection et il y a une partie sur des raffles, des quests Zilli, enfin de ce genre de choses. Donc il y a des allocations qui sont faites comme ça. Et puis il y a aussi des partenaires qui nous suivent depuis le début et voilà, ça fait énormément de sens de leur donner un spot à cette phase-là. Et ensuite, il y a la deuxième phase où il y a le reste des jetons. Alors ça sera toujours sur Allo List, il n'y aura pas de mint public. Donc, il faudra quand même avoir découvert le projet et s'en être intéressé un minimum en amont pour s'être inscrit dans la whitelist. Mais là, ce sera ce qu'on appelle du FCFS, donc First Come, First Served. Ça veut dire premier venu, premier servi, quoi.
Ok, d'accord. Donc, ok, c'est intéressant. Donc, c'est très clair. Donc, c'est un premier, donc première étape. Donc, ça se passe quand, cette étape-là?
Alors, on a juste annoncé la semaine dernière la collection, les phases, etc. Donc, on est en train d'organiser une quest Zilli et tout. Moi, je pense clôturer courant de la semaine prochaine les inscriptions sur Allo List. Et après, c'est d'enchaîner le mint dans la foulée. Donc, c'est vraiment dans les semaines à venir que la première phase du mint va se dérouler et la deuxième phase viendra après. Alors,
donc vous êtes en train de définir les dates clés de la première phase qui vont avoir lieu là, dans le mois qui vient. Et donc, ouais. Il y a un moment où ça va se lancer là, dans le mois qui vient.
C'est ça. Ouais, l'objectif, c'est de faire ces choses-là rapidement. On a voulu une petite communauté exprès. Parce que ça sera plus simple, tu vois, d'affiner aussi les process décisionnels, etc. Il faut savoir que moi, j'étais dans des DAO avant, et puis j'ai pu voir des pratiques pas top se dérouler dans certains DAO. C'est d'ailleurs pour ça que je ne l'appelle pas un DAO. Je n'ai pas envie de créer des similitudes en termes d'attente auprès des gens. C'est un council. J'aimerais quand même, tu vois, prendre quelques semaines avec une petite communauté, voir comment les choses se passent. Voilà. D'accord. Et je prépare aussi un truc. Alors ça va probablement être fait la semaine prochaine. Je suis encore en train de réfléchir sur les dernières choses. Mais je ne veux pas trop en dire. Mais un petit truc sympa. Un petit truc, voilà. Rajouter un petit peu de jeu dans tout ça pour aussi créer un peu de awareness autour du projet.
Ok, d'accord. Ok, donc voilà. Bon, on a compris aussi qu'il y a un besoin de levée qui est important pour transformer, on va dire, ce concept qui est encore à l'état embryonnaire en véritable jeu qui pourrait être lancé, on va dire, dans un an, quoi, pour faire simple. Tu cherches, tu as déjà créé pas mal de startups, donc j'imagine que tu as déjà levé des fonds sur du B2B, c'est ça?
Ouais, effectivement, ouais.
D'accord, donc oui, tu connais un peu les mécaniques, et c'est un peu une nouvelle aventure pour toi, parce que là, c'est le B2C, quoi, c'est ça?
Alors, c'est le B2C, et puis en plus, moi, j'étais à l'étranger, je suis rentré en France en 2019, donc mes levées, je les faisais, c'est ma première aussi levée en France.
D'accord, ok, d'accord, oui, donc t'as pas le même réseau de VC que t'avais au Moyen-Orient, quoi, c'est ça?
Pas du tout,
d'accord.
Pas du tout.
Ok, non, très bien. Alors, il y a plein de questions. Je pense que Rem, il en a plein aussi. C'est vrai qu'il y a, le concept, il est cool. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a un double challenge. Tu as un challenge malgré tout, qui est le challenge le plus compliqué quand on crée un jeu, c'est d'avoir, tu le disais, à quel besoin tu réponds quand tu crées un jeu? Tu réponds à ce besoin de générer de la dopamine ou d'être dans un état d'excitation dans cet état-là. Bah, la création de cet état, en fait, je pense que tu as, on va dire pour être gentil, un jeu sur 10 qui a la capacité de la générer. Parce que tu as ce truc-là du jeu, du monde du gaming, qui est, je sais pas comment on appelle ça, la secret sauce, quoi. Qui est le parfait équilibre. En fait, c'est, tu vois, ce qui fait le succès d'un jeu, c'est un équilibre. Et donc, c'est vrai que ça va être un peu le challenge, et c'est ce qui fait que tu as beaucoup, beaucoup de jeux dans ce space qui sont déséquilibrés, mais qui ont finalement la rançon financière derrière qui arrive à l'équilibrer un peu. Enfin, voilà, il y a toute une question là, quand tu le définis comme ça, poser des pièges, enfin, mélanger de l'énigme, de la stratégie, de la vélocité dans un concept de jeu. C'est une nouvelle mécanique de jeu, j'ai l'impression, et qui dit nouvelle mécanique de jeu, c'est presque de la, enfin c'est de la R&D quoi, et c'est de la R&D, en tout cas je dis pas technique, mais de la R&D pour savoir bah, quel est le bon, quel nouveau type de jeu tu vas créer quoi.
C'est ça, c'est une expérience, c'est tout c'est à fait ça.
Donc c'est vrai que là bon c'est toujours, t'as toujours un peu un petit risque ou un point d'interrogation sur est-ce que les gens vont capter, est-ce que ça va accrocher ou est-ce que c'est... Mm-hmm. Voilà. Après, le deuxième axe, tu l'as ébauché un petit peu, RM m'a déjà mis des chats là-dessus, c'est évidemment l'aspect légal.
Ouais.
L'aspect légal sur lequel on voit bien que oui, tu vas avoir un peu de boulot là-dessus, j'imagine.
Alors, sur ça, le boulot va surtout être de retirer, d'ôter les doutes sur les similitudes avec, d'un côté, les jeux de loterie. Parce qu'il y a deux catégories, en fait, dans ce qu'on appelle jeux d'argent. Tu as les jeux de loterie et tu as les jeux d'argent style casino en ligne ou les jeux de paris, etc. Et c'est le travail en fait autour de ce projet, c'est de bien expliquer que on rentre dans aucune de ces catégories-là, parce que d'une part c'est pas une loterie finalement, tu vois, comme j'avais expliqué sur la tombola, la mécanique hasardeuse.
Est-ce que ça existe aujourd'hui des jeux où j'ai l'impression que c'est un peu ça quoi. Je sais pas, tu pourrais parier sur un match de Counter-Strike ou un truc comme ça, c'est possible ça? Ça existe déjà?
Il y a des projets qui font ça, ouais, autour du e-sport. Il y en a qui le font sur la vraie vie. Hein.
Tu rentrerais un peu dans cette catégorie, quoi, c'est ça, non?
Non, pas tout à fait. Parce que finalement, l'issue de cette catégorie-là, comment elle fonctionne, l'issue du gain dépend de quelque chose qui n'est pas dans ton contrôle et d'événements qui se passent, certes, dans la vie réelle, mais
sur lesquels... Je te parle d'un tournoi de Street Fighter, par exemple, ou un jeu vidéo, quoi. Des gens qui se challengent sur leurs skills, sur des jeux vidéo.
Ouais, mais c'est en fait pareil, c'est la même chose qu'un match de foot. Hein. Aujourd'hui, le e-sport, c'est... Ils se challengent sur un jeu vidéo.
Excuse-moi, alors j'ai mal formulé. On va dire, je parle du principe de parier sur toi-même. Donc ça veut dire... D'avoir un frais d'entrée pour jouer à un jeu.
Alors ouais.
Et te challenger avec d'autres.
C'est ça. Et je vais te dire, il y en a qui sont même allés plus loin que ça. Si tu regardes, alors il faut traverser l'océan, hein, c'est aux États-Unis. Tu as une société qui s'appelle Pixel Vault. Ils ont aussi lancé des collections NFT. D'ailleurs,
je connais bien.
Tu les connais?
On a perdu beaucoup d'argent avec Pixel Vault.
D'accord. ça fait de nous de trois parce que moi aussi j'ai acheté un Meta Hero à l'époque.
Moi je l'ai acheté le Meta Hero. Je sais plus qui on a reçu de chez Pixel Vault au NFT Morning et là j'étais chaud. J'ai dû le payer mais au top du top le truc.
D'accord. moi j'avais acheté un rare donc j'avais pas acheté au floor et enfin pour le moment je le garde, il est dans un placard et on verra ce qu'il en sortira. Mais du coup, si tu vois ce qu'ils ont fait avec Battle Plan et avec le protocole Reboot, ils sont allés plus loin que simplement faire un jeu, comme tu le dis, la Street Fighter où tu paries sur toi-même, parce que en fait, Battle Plan, t'as un mode gratuit et t'as un mode payant où tu dois payer pour rentrer dans la partie et l'autre joueur paye aussi et le gagnant rafle la mise, d'accord? Et avec Reboot, ils ont carrément développé un protocole pour permettre à d'autres jeux qui voudraient se lancer avec un même état d'esprit de pouvoir utiliser les contrats intelligents déjà déployés et vérifiés et sécurisés, etc.
D'accord.
Donc oui, ça existe.
Ça existe, mais ce que je veux dire, c'est que dans l'environnement réglementaire aujourd'hui, on parle encore d'un objet. Enfin, moi, c'est quelque chose qui a l'air un peu simple, mais... Le principe de faire une partie de FIFA et de mettre 10€ chacun et de dire le gagnant prend la mise, c'est vieux comme le monde et c'est étonnant que même dans le Web 2 même dans le Web 2 et dans le monde, t'es pas déjà des trucs où tu peux, je sais pas, faire te pluguer sur un Fortnite ou sur un je ne sais quoi pour pouvoir faire ça. Enfin, quand je te parle de l'environnement réglementaire, c'est ça. J'ai l'impression qu'on est encore sur quelque chose qui pour une raison que j'ignore complètement, mais n'a pas réussi à rentrer dans le monde alors qu'il y aurait potentiellement beaucoup de gens intéressés, beaucoup de pognon à faire, même sur des jeux qui existent aujourd'hui, quoi.
Ouais. Écoute, moi, alors, c'est que mon avis sur la question. Et là, je profite un petit peu de mon expérience dans le...
Je connais pas, mais je me dis juste, c'est étonnant. C'est étonnant qu'il y ait pas, que ça n'existe pas, cette notion-là.
Je pense que la barrière, elle venait beaucoup des sociétés qui traitaient des paiements. Les paiements digitaux. Pour avoir beaucoup travaillé avec des boîtes comme ça dans le passé, ils ont les chocottes, ces gens-là. Ils veulent pas tremper dans des choses qui pourraient de près ou de loin se retrouver retoquées parce que ils ont une licence qui mettrait en jeu. Et en même temps, ils ont aucun intérêt d'aller pousser pour des projets de ce type-là parce qu'ils se font déjà énormément d'argent avec des gars qui arrivent et qui vendent des vêtements, de la cosmétique, okay, bon, du parfum.
C'est une vraie question, mais je pense quand même que dans l'univers du marché, tu aurais forcément eu même un petit jeu outsider qui ne gagne pas d'argent ou même un mec qui va prendre un code open source et qui va le tourner différemment. Je pense quand même qu'il y a encore du gris, il y a une vraie zone réglementaire un peu complexe là-dessus.
C'est un fait, hein, et pour ça, moi, je remercie Sorar qui est en train d'éclairer la voie.
C'est ça.
Tu vois, et autour de ça. Et je les remercie doublement parce que Space Hunters, il aura beaucoup moins de composantes hasardeuses que Sorar. Donc, en fait, ce qu'il en adviendra de Sorar, moi, j'ai une certitude à 99% que ça permettra, tu vois, d'ôter tout doute sur un projet comme Space Hunters. Mais c'est vrai qu'il y a une zone grise. Et après, quand on entreprend et qu'on veut faire des choses un peu nouvelles, c'est...
Tu as besoin de lever combien, du coup ?
Alors, moi, ce que je prévois, c'est une enveloppe d'1,5 million. Ça, c'est au global. Ça permet aussi d'avoir certaines marges, pérenniser le projet et de pouvoir, justement, tu parlais d'un risque, j'en suis conscient, tu sais, un risque sur la secret sauce qui fait prendre le truc. La structure autour de missions comme ça à temps limité, elle permet de pivoter, elle permet de faire des changements entre plusieurs missions et de se donner plus de temps et de chance au cas où ta sauce, elle foire, de pouvoir recommencer un petit peu ta recette, d'ajuster un peu ta recette.
D'accord, ouais, donc de faire du réglage, du settings, jusqu'à ce que tu trouves le truc qui colle un peu, quoi.
C'est ça.
D'accord. Rem ?
Oui. Bonjour.
Voilà, Rem, tu poses le ticket d'entrée, c'est 50K minimum parce que c'est de la love money, on t'aime bien. Tu rentres dans le projet ?
C'est dur comme question. C'est dur parce qu'il y a... Non, il y a des points que j'ai besoin de comprendre davantage. Mais en fait, ça, je me demandais, je trouvais intéressant votre discussion parce que je repensais à ton expérience à toi, John, avec The Lost Toilet.
Ouais, bien sûr.
Et en fait, je me disais, je me demandais, toi, ton point de vue finalement.
En fait, mon point de vue, c'est... non, mais je pense.
Après ton expérience de The Lost Toilet, déjà, je sais pas quelles conclusions tu tires de cette expérience-là.
En fait, je pense que t'as un vrai marché, t'as un marché énorme là-dessus. Moi, je suis persuadé que t'as un marché énorme, que t'as. Enfin, il y a quelque chose à faire, en effet. Pour moi, tout est jeu, tout est gamification à 20-30 ans, que tu sois dans l'éducation, dans la vente, dans tout ce qui va toucher aux médias. Je vois un peu le jeu. Le jeu va prendre pour moi encore plus d'importance qu'il en a déjà, sachant que le jeu a déjà énormément d'importance aujourd'hui. Et donc oui, je pense qu'il y a un marché très très important. En effet, tu vois, Lost Toilet, moi, c'est un succès en demi-teinte parce que justement, la chasse au trésor, c'était quelque chose d'un peu niche Et on s'est rendu compte qu'on avait touché tous les gens qui étaient intéressés pour se casser la tête là-dessus. Mais que des gens comme ça, tu en as quelques dizaines de milliers, c'est bien. Mais c'est pas des millions, quoi, tu vois. Et donc, le travail, d'ailleurs, en réflexion en saison 2, c'est sur quelques simplifications de mécanique, tu vois. Et donc, c'est intéressant. Moi, j'aime bien ce concept d'avoir un temps, un timing limité, une quête limitée, un prix défini. Je pense que c'est intéressant. Après, voilà, tout ce qui est à l'intérieur, tu vois, et c'est ça la difficulté, c'est le bon équilibre entre le truc simple et le truc compliqué. Et c'est ça le truc, en fait. Parce que si c'est trop compliqué, la majorité des gens vont se dire « Ah ouais, non, bah laisse tomber, c'est pas fait pour moi. » Et si c'est trop simple, eh bien, tu deviens de la loterie. Donc, c'est un peu ça, tout le bon équilibre à trouver, quoi.
Exact.
Et après, il y a un autre truc... Oui, pardon. Vas-y, Julien.
Non, quoi. Juste pour rebondir sur ce que vient de dire John, qui est très vrai, c'est là où tu vois en fait la puissance d'avoir des missions et de pouvoir en organiser plusieurs, parce que tu peux ajuster le niveau de difficulté entre missions et du coup cibler différentes typologies de joueurs. Mais bon, voilà, c'était juste...
Non, mais ça c'est intéressant. Et d'ailleurs, ça, je voulais vraiment te féliciter parce que...
Des MCS qui dit oui, le jeu va prendre plus de place parce qu'il y a plus d'écran. Et là, t'as raison aussi, oui, je suis d'accord. Vas-y, Rem, pardon.
Non, mais on sent évidemment l'ingénieur derrière le jeu, parce qu'on a l'impression que t'as pensé à beaucoup de choses. On pense jamais à tout, mais t'as pensé à plein de...
Tu joues à Catan ou pas?
Moi?
Ouais.
Tu sais que je n'ai pas encore eu l'occasion, j'ai la boîte.
Non.
Je te jure. Parce que celui qui m'a parlé de Catan, il m'a dit, ouais, il faut quand même qu'on se pose 2 heures, tu vois. J'ai dit, bon, ok.
Tu joues à Catan, tu vois.
Je sais.
J'ai initié mes enfants avec Catan Junior.
Yes.
Donc t'as pensé à plein de choses et tout. Et justement, tu vois, le ticket d'entrée, même si le ticket d'entrée peut sembler peu cher, puisque c'est peu cher, je suis de Marseille, mais c'est pas ce peu cher-là.
Peu cher.
à 50 euros. Mais j'imagine qu'en fait, on a une habitude aujourd'hui à avoir accès à beaucoup de choses de manière gratuite. Est-ce que tu as un...
Mais là, les 50 euros, c'est pas pour jouer. Les 50 euros, c'est pour faire partie du conseil.
Non.
Si. Ah oui, et en fait, c'est maintenant avec le cours, avec le cours de l'Ethereum.
Ah oui, c'est vrai. Faire partie du conseil, donc c'est pour le premier drop, c'est ça?
Non, c'est le premier drop. Et quand tu es dans le conseil, en fait, un des avantages, c'est que tu pourras jouer à vie gratuitement, toutes les parties.
Ouais, bon, ça c'est super cool. Mais après, pour jouer, pour participer à la chasse au trésor, il y a un coût d'entrée.
Tout à fait, ouais. Il y aura un coût d'entrée. Alors, moi, ce que j'envisage, bon, là, tu vas dire oui, le côté ingénieur, effectivement, j'ai pensé à pas mal de choses. Le coût d'entrée auquel je pensais en prix public final, ça serait dans les 22 dollars. Et je dis final parce que l'idée, c'est quand même de dérisquer au maximum les parties et donc de pouvoir proposer à ceux qui viennent early une promesse de gain un peu plus petite, mais du coup, un ticket moins cher. Et qui augmenterait au fur et à mesure que la partie se remplit. Bon, ça, c'est des mécaniques un petit peu de dérisquage, à voir si ça va être nécessaire de le faire ou pas. Et dans un second temps, moi, ce que j'aimerais faire pour toucher plus de monde, c'est d'une part toucher plus de monde, c'est-à-dire pouvoir aller dans le mainstream market et toucher des gens du Web 2, et aussi permettre à des gens de découvrir le jeu, c'est de faire une version un peu freemium, où tu jouerais, mais là, voilà, on aurait trouvé la secret sauce. Tu jouerais sans payer, tu ne gagnerais rien de grosse valeur. Si on arrive à trouver des sponsors, bon bah pourquoi pas. Mais tu gagnerais des tickets dans des parties payantes.
Et donc, comme ça, tu système de satellite.
Voilà.
Et après, tu vois, je me disais, est-ce que moi, par exemple, si je sais qu'il y a une Tesla à gagner, qui est un magnifique lot déjà, est-ce que je serais incité à y aller? À mon niveau, alors moi je suis pas un joueur passionné. Je sais qu'il y a des niches comme ça. Il y a des gens qui passent leur vie à faire des jeux concours. D'ailleurs, ouais. Je sais pas comment toi tu pourrais faire pour attirer justement cette clientèle là, parce qu'elle est pas forcément dans le Web3 déjà. Mais bon, ça c'est un autre sujet.
Exact.
Mais je me disais, est-ce que la première quête, ça doit pas être un truc de ouf, genre un Space Hunter, c'est un voyage dans l'espace, tu vois?
Ouais, il faudrait que j'appelle Elon.
Voilà, tout simplement.
Non, mais.
Tu vois, on mettrait la Tesla. Tu vois, la Tesla, déjà, c'était pas mal, mais REM, ça lui va pas, tu vois.
Bah non, parce que. Bah moi, parce que il me faut. Je sais pas si. Il faut que ce soit énorme, tu vois, un truc. Bah déjà
non,
pour.
Mais tu sais. Ouais. Je comprends, hein, je comprends la logique. Maintenant, l'objectif, hein, c'est de, entre chaque mission, de pouvoir offrir des lots différents et du coup d'attirer des gens différents aussi. Sur la première, je vise 10 000 joueurs. Moi, mon pari, c'est de me dire, je trouverais quand même bien 10 000 personnes intéressées par une Tesla qui aiment bien ce genre de jeu, etc. Tu vois. Donc, c'est ça aussi, je mets en perspective. Je me dis, oui, effectivement,
mais faire je pense un que gros lot. Pour rebondir sur ce que dit Rémi, ça rejoint un peu ce que je disais avant. C'est vraiment le market fit, l'équilibre. 10 000, c'est beaucoup déjà. Quoi. Et c'est vrai que pour avoir ces 10 000, c'est un peu ce que dit Rem, quoi. Soit d'un côté, tu vois, Rem, lui, il se dit, bon, c'est un jeu, je sais pas trop. Donc, Rem, ce qui va lui plaire, lui, limite, c'est la bonne vieille loterie, quoi. T'appuies sur un clic, tu mets 10 balles et tu pries, tu vois. Ou, mais il y en a d'autres, tu vois, et c'est pour ça que je te disais ça.
Non, mais avec le risque aussi de ce que tu dis, avec le risque que je sois picousé, quoi. C'est-à-dire que le jeu m'emballe et que j'ai envie de faire d'autres parties derrière, tu vois.
C'est ça. Mais tu vois, tu as d'autres gens, ils vont se dire, bon, bah, moi, j'ai déjà de la skills dans ce type de jeu. Mais tu vois, quand tu as une cible de joueurs établie, je te dis, demain, tu fais la même chose en disant, comme le fait Fortnite, tout simplement. Hein, d'ailleurs, 1 million à gagner, grand tournoi de Fortnite. Bam, 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 bam. Là, bon, les gens jouent gratuitement en plus, donc c'est encore plus facile. Mais tu vois, tu pourras avoir le même principe où des gens paieraient parce qu'ils connaissent le jeu, ils savent qu'ils sont plus ou moins bons. En tout cas, chacun a l'espoir d'être le meilleur joueur de Fortnite au fond de lui et se dit sur une partie, je peux finir top 1 et donc ça va le faire, tu vois.
Yes. Et
maintenant, c'est vrai que la difficulté d'être du market fit, c'est un jeu que tu connais pas avec une mécanique nouvelle. Je pense que ça va être une belle odyssée dans l'espace, quoi. Ça va être un beau. Mais voilà, ça fait partie de l'expérience. De toute façon, tu le connais, mais c'est vrai que c'est voilà cet équilibre. Moi, je pense que c'est vraiment au-delà du légal sur lequel on a un gros point d'interrogation. Je pense que cet équilibre de trouver justement de se dire quelle est ta cible. Est-ce que c'est Rémi?
Non, mais le légal, légal, effectivement, s'il n'y a pas d'argent à gagner et tout, c'est un jeu concours avec il faut un règlement. Tu prends un bon avocat, tu fais valider par un huissier. Bon, voilà, c'est pas. Enfin, faudra le faire à chaque fois.
Oui, tu as raison, peut-être. Ouais. Ouais. Peut-être raison. Mais,
Alors, par contre, alors, c'est marrant parce que je pense que c'est une des rares rooms où on a si peu parlé de Web3 et de NFT. Et je me demandais finalement où ce. Enfin, est-ce que c'est quelque chose. Alors, c'est sûrement volontaire. Je commence à te connaître, Julien. Et donc c'est sûrement volontaire. Maintenant, je me demande où se place, enfin peut-être dans où se place la tech dans le projet, quoi.
Ouais.
Cette tech-là.
Ouais, bien sûr. Elle a beaucoup de sens, la tech. D'abord, ça va être les tickets. Donc quand tu vas vouloir jouer, tous les tickets que tu vas acheter pour participer aux parties, ce seront des NFT. Les power-ups, pareil. Quand tu vas remporter des power-ups, ça, c'est dans la mécanique de go-to-market et de lancement des missions. Moi, je prévois de distribuer gratuitement des power-ups à des gens qui vont participer à la promotion du jeu en organisant, tu sais, des tirages au sort. Et ça va se greffer sur leur ticket NFT. Donc ça prend tout son sens et ça permet d'avoir un marché secondaire aussi pour les gens qui souhaitent revendre les tickets par la suite. L'autre partie où la blockchain prend tout son sens aussi, c'est dans ces cristaux qui sont finalement les objets que les gens vont chercher dans la map de jeu. Ces cristaux sont des NFT. Et en début de partie, tous ces NFT vont être créés et stockés dans la blockchain avec une clé de cryptage qui viendra encoder leur position dans la map de jeu et le lot qu'ils cachent. Et c'est ce qui va permettre, c'est pour ça que moi, sur l'aspect légal, je suis plutôt confiant. Parce que c'est ce qui va permettre de pouvoir expliquer à n'importe quelle autorité, écoutez, c'est comme si j'avais pris ma pelle des petits coffres avec un libellé pour chaque cadeau et que j'avais enterré mes coffres en début de partie autour de mon territoire de jeu et que j'ai dit aux gens, allez-y, à vous de jouer. Et
petite question, et donc, désolé, petite question, ouais, tu vois qu'il est 10h. Tu utilises quoi comme token pour le cristal qui cache en lui un autre NFT, si j'ai bien
Alors,
compris.
Tu veux dire la spécificité du token?
Ouais, c'est un... Je sais pas.
Ça va être du 721. Parce que Très bien. Tu dois avoir... chacun doit être unique,
John
etc.
est pressé, là.
je dois
y aller.
Tout
okay.
de suite, je suis très en retard, mais je te remercie, Julien. Rem va finir avec vous.
Bon, OK.
Il n'y a pas de souci.
Et en tout cas, c'est à suivre. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler à la fin de l'année pour suivre les avancées du projet, savoir où vous en êtes. En tout cas, merci beaucoup.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup à toi. Ciao.
OK. D'accord. Non, parce que je crois qu'il y a des nouveaux tokens, nouveaux formats de tokens, où en fait, on peut... En fait, finalement, ton token est lui-même un wallet.
Qui peut, alors, oui, ouais, c'est
un peu
standard.
Sali. Ouais.
Et tu peux le faire avec du 721.
D'accord.
Alors ça, c'est plus pour les tickets.
Ouais.
En gros, tu peux modifier même des anciens tokens que tu avais déjà. Tu ne les modifies pas vraiment, mais en gros, tu peux les activer en mode wallet et donc associer à ces tokens-là d'autres jetons.
Très bien, génial.
Ouais.
Non, mais c'est trop cool. Hein. Bah, écoute, franchement, très chouette projet. Le mint est prévu pour quand?
C'est ce que je disais à John, en fait. Pardon. C'est dans les semaines à venir.
Il n'y a pas de date encore. Okay.
On n'a pas encore fixé la date. Pour le moment, on est en train de recevoir des inscriptions en allow list parce que le mint ne sera pas public.
D'accord.
Donc, il y aura les deux phases que j'ai évoquées et une phase qui sera garantie et dans lesquelles le process d'inscription aujourd'hui va générer un tirage au sort pour décider de qui aura accès à la première phase garantie.
Okay.
Et le reste des inscrits.
Enfin, handpick plutôt. Vous allez choisir un peu les gens que vous voulez dans le conseil, quoi.
Alors, il y en a certains, il y a certains tracks pour être en allow list où on va choisir, et d'autres où ce sera, on va laisser le hasard faire les choses. Typiquement, la quest Zilli, ce ne sera même pas le hasard,
ouais,
ce sera le top du leaderboard, ils auront accès à cette phase-là. Et le reste, après, ce sera du first come, first served. Donc, ouais. il y a déjà plus de monde qui aura de jetons disponibles sur la deuxième phase, mais on invite quand même les gens à continuer à s'inscrire parce que finalement, il y a quand même la possibilité de rentrer dans la première.
Trop bien.
Cette possibilité est toujours là.
Ok. Donc, faut suivre le compte Twitter. Vous avez un Discord?
Ouais, on a un Discord. Donc, j'invite tout le monde à nous rejoindre.
Oui, c'est là-bas que tout va se passer, quoi, surtout.
Effectivement, ouais. C'est là où on fait les annonces sur le Discord essentiellement, et puis ouais. Après on relaye sur le compte Twitter. Exactement.
Eh ben génial. Je regarde s'il y a des questions. Je sais pas s'il y a des. Alors. Hop, pardon. Diem Sauvobin, il y a une super teuf avec DJ à la Factory à 20h ce soir. Ok. Ah oui, il y avait donc la remarque de DMCS sur les écrans, c'est très vrai. D'ailleurs, il y a une version mobile qui est prévue?
Alors le jeu en fait va être complètement browser-based. Ça aussi c'était un choix pour s'affranchir de différentes choses et puis aussi pour pouvoir gérer l'espace du jeu comme on l'entend. Donc ouais, tu pourras de ton téléphone rentrer dans le jeu ou de ton ordi, de ton iPad...
Trop
ce sera multiplateforme, quoi. Aucun problème.
Génial. Merci, Julien.
Ben écoute,
c'était
je
très
t'en
cool.
prie. C'est moi qui vous remercie, effectivement. Moi, j'adore toujours parler du projet, donc c'est toujours un plaisir.
Eh ben ouais, ben écoute, faut que tu reviennes, au moins déjà pour nous annoncer le lancement du premier jeu, et voilà. Qu'on soit,
avec grand plaisir,
qu'on
c'est
soit
clair.
Au courant. Donc dans quelques mois, si j'ai bien compris.
Bah écoute, je croise les doigts, hein, on espère. L'objectif étant quand même de pas brûler les étapes et de faire les choses quand même un minimum correctement, même si on est dans le Web3 et que les gens aiment bien, tu vois, avancer très vite. Il faut quand même donner du temps au temps sur certaines choses.
Eh ben, trop bien. Et demain, on a une méga, méga star on a l'artiste Robert Alice. Robert Alice, il faut savoir, c'est quand même le premier artiste qui a vendu, avant Beeple d'ailleurs, qui a vendu une œuvre en NFT aux enchères chez Christie's. Il a sorti un livre là, avec Tashken, qui est assez monumental dans sa démarche. Donc voilà, donc on a l'immense honneur de le recevoir. J'espère que vous serez très nombreux. D'ailleurs, on va l'annoncer là, dès maintenant sur les réseaux. Et puis voilà, donc passez une excellente journée. J'espère à demain. Et puis, good morning!
Happy. Happy. Really happy.